Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1166 en ce samedi 29 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Dans ce 1166e numéro de Sweet Home Chicago, encore de nombreux contrastes avec deux heures différemment orientées, vous verrez. En première heure, côté US, nous achèverons l'exploration de Don't Gone Too Far, le magnifique album du mois signé chez Mecca Copeland. Dans la rubrique Beatles Song Story, 14e du nom, c'est Jackie Emery qui poursuivra avec nous l'exploration du mythique A Day in the Life des Beatles, entamé dans le numéro 13, et qui nous fera écouter une version live signée Jeff Beck. Et puis côté Frenchie, nous reviendrons sur Miettes d'éternité, le tout nouveau double album de Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panicot, en attendant leur présence dans les studios de Radio 666 le 12 novembre prochain. Nous écouterons une interview en direct depuis un bateau sur les canaux d'Amsterdam de Philippe Fernandez, Big Death, qui sera en tournée aux USA. Ben, c'est déjà commencé, hein, c'est du 27 octobre jusqu'au 6 novembre avec des dates sur Chicago, Dallas et Austin. Nous reviendrons aussi sur l'interview de Cyril Magui donnée en juillet dernier lors du Cognac Blues Passion et nous réécouterons l'album de son groupe Vicious Steel, Fuel Band. En deuxième heure, c'est une belle rencontre qui vous attend avec deux musiciens de Coutances, Thibaut Delacote et Fabien Kerbark, le tout nouveau Deeper Dan, un groupe né pendant la pandémie. Ils sont présents dans le studio pour l'interview et l'enregistrement live d'un titre original. Nous découvrirons donc leur monde inspiré des années 70, avec des influences qui vont de Magma, Frank Zappa et Allman Brothers, jusqu'à Marcus King et des artistes aussi variés que inspirants. Des sonorités douces et feutrées, un univers unique dont le quartet a le secret, fait de rock, de blues, de touches de jazz et pétri d'une belle sensibilité. Ils produiront sur la scène du Normandie à Saint-Lô le 11 novembre prochain. Après cette interview de Deeper Dan, nous en profiterons pour nous faire plaisir et écouter Marcus King, The Allman Betts Band et Tedeschi Trucks Band. Et puis nous terminerons cette émission avec la rubrique 50 Years After et The Allman Brothers Band avec un retour en 1972 et le double album Brothers and Sisters. Voici pour démarrer chez Mecca Copeland. Disque du mois, ça s'appelle Nobody But You, extrait de Don't Gone Too Far chez Alligator.
When I was out, who took me in, gave me a shoulder to cry on, showed me love again? Nobody but you, nobody but you, make me love you like I do. Who can I depend on after all said and done?
Clown.
La grande Chemika Copeland, Nobody But You, extrait de Don't Gone Too Far chez Alligator Records, disque du mois pour cette émission Sweet Home Chicago pour ce mois d'octobre. On poursuit avec Philippe Fernandez, Big Days, en interview. En direct d'Amsterdam avec Philippe Fernandez, Mr. Big Days, comment ça va ?
Très bien, et toi, comment ça va Marc ?
Ça va très bien, je te remercie, ça fait un petit moment que ça t'est pas parlé au téléphone, c'était la dernière fois à l'occasion de la sortie de ton dernier album, on était en 2021, voilà, ça reste encore récent.
Hein Exactement.
Et puis cet album qui était très inspiré par Chicago. Avant qu'on parle du sujet de cette interview, Phil, j'aurais aimé que tu me dises quelles sont tes connexions et depuis combien de temps tu joues régulièrement aux États-Unis ?
Bah écoute, en fait le premier voyage c'est en 96, à la création du groupe. Tout de suite après, moi je suis allé à Chicago la première fois, première ville américaine que j'ai visitée, j'ai flashé total. Et puis j'ai commencé à y aller plus sérieusement juste avant qu'on fasse le premier album en 2000. Oui. Et là j'ai commencé à jouer pour la première fois. Avant j'avais jamais et tout ça, mais après c'était au Texas, à Austin, et là j'avais joué en tant que musicien engagé. Sur scène avec un cachet et tout ça. Quoi. Voilà.
Voilà, mais ça, c'est un contexte intéressant, Phil, pour comprendre le pourquoi du comment de ce qui se passe pour toi en ce moment, pour Big Days, le USA Tour. Alors, on va le dire, c'est carrément une des premières fois, peut-être même la première fois, qu'une formation française entièrement composée de musiciens français, donc avec les musiciens d'origine, part non pas faire une date ou deux invitée par des amis, mais carrément pour faire une tournée américaine, c'est ça hein.
Alors, la moitié de la tournée, il y a le groupe Big Days, où il y a Marc Scheller, Guillaume Destarac, Lamine Guerfi et Paco Lefty End qui viennent à Chicago surtout. Après, au Texas, il n'y a que Guillaume qui reste avec moi. Voilà. Et j'ai un bon copain à l'harmonica qui s'appelle Gilles Gabisson qui sera avec nous et Bobby Chitwood aussi, un bassiste. Bon, voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est la première fois. D'ailleurs, dans le groupe, c'est la première fois que Marco va aller à Chicago, Lamine. Et même Pascal, donc en fait, et même Guillaume. En fait, ils sont déjà allés aux États-Unis, mais pas à Chicago. Et Pascal, jamais aux États-Unis.
Ah, génial.
Donc, c'est plein de trucs incroyables. Ouais.
Alors, il y a aussi une pianiste habituellement dans ta formation, Léa Worms, elle est toujours avec toi ?
Non, parce que elle a été arrêtée pour congé de maternité une deuxième fois.
Oui.
Et on s'est rendu compte que finalement, on préfère ponctuellement appeler, comme pour les cuivres ou les choristes, un clavier ou une clavier quand on a besoin. Là, par exemple, ce week-end à Paris, oui. Mais elle était vachement prise aussi, et puis une nouvelle maman, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné. Mmh. Mais il n'y a pas d'animosité, pas de fâcherie.
Très bien.
Ça se refera quand ça se refera.
Voilà, je pose la question parce qu'elle était présente et très présente sur le dernier album.
Oui.
Et puis, oui. Voilà, c'était une belle, belle réussite. On avait écouté de long en large ce disque-là, dont Léa fait partie, bien sûr. Alors là, on est sur une nouvelle aventure avec carrément trois dates à Chicago qui se suivent. Alors, c'est vrai que parfois, quand on se dit, bah tiens, on va jouer dans telle ou telle ville, le promoteur du concert fait attention à ce que tu n'ailles pas jouer ni la veille ni le lendemain, pas trop loin. Mais là, c'est Chicago, quoi. Genre, on s'en fout, tu joues à Chicago.
Bah oui. Alors, je leur ai quand même posé la question. Et les gars m'ont dit non, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je fais ça bien comme je fais en Europe. Je pose la question et des fois on te dit non, vous jouez pas à 80 km aux alentours pendant un mois ou non, vous jouez que chez moi ou sinon rien. Et là, les gars ont dit, les promoteurs, ils ont tous dit non, il n'y a pas de souci.
Ben oui, d'autant plus que ce sont des endroits, Phil, qui sont régulièrement bondés. Enfin, c'est très difficile d'aller au Buddy Guys sans avoir réservé. Par exemple, le Buddy Guys Legends, le House of Blues et le Rosa's Lounge, carrément, trois soirs de suite. On est sur les dates des 27, 28 et 29 octobre. On va répéter quand même Buddy Guys Legends, House of Blues et Rosa's Lounge. Quand tu as annoncé ça, je voulais savoir, déjà, ça s'est fait comment, ces connexions, ces dates? On pourrait peut-être citer également la petite Liz Mandeville, qui est peut-être pour un petit peu,
oui.
Je ne sais pas.
Elle y est pour quelque chose, pour le Buddy Guys, parce qu'elle y joue régulièrement, puis Buddy Guys l'aime beaucoup, parce que c'est quand même une nana qui est sur la scène de Chicago depuis presque 30 ans, donc ils se connaissent. Et c'est vrai qu'elle a souvent des dates là-bas. Elle m'avait dit, écoute, j'essaierai de te booker là-bas. Et elle a réussi. Mais le reste, c'est moi qui me suis débrouillé. Parce que j'ai fait des connexions, parce que j'y suis allé plusieurs fois dans cette ville. Et parce que là, les deux dernières fois avant le Covid et juste après le Covid, j'y suis retourné. Eh ben, à force de s'acharner, de jammer. Et puis sûrement, faut pas non plus faire de la fausse modestie, de plaire aux programmateurs. Ils m'ont vu jouer. Ils ont dit, allez, on essaye. Mais c'est vrai que j'y croyais pas trop quand même. Surtout le Rosa's Lounge, un samedi soir. Même moi, je suis quand même assez étonné, mais il a voulu faire l'essai. Il nous a demandé d'inviter quand même un local, donc ce n'est pas rien. Jimmy Burns,
carrément.
Voilà, qui va jouer sur chaque set 3-4 titres. On va l'accompagner, ça c'est génial. Mais voilà, non, c'est quand même quand tu vas sur le site de Rosa's Lounge, tu regardes sur le calendrier, c'est quand même Big Days qui est marqué, quoi, tu vois.
Ah, donc, c'est top
quand
ça.
Même, et c'est vrai que même le Buddy Guy, hein, c'est marqué Big Days, Elise Mandeville, Special Guest, mais c'est quand même, il y a le site de Big Days et tout. Donc voilà, c'est un peu, moi, pour moi, c'est, je suis super content. C'est au-delà du fait que tu vas jouer à Chicago, c'est le fait que il y a de la reconnaissance, quoi. Les mecs, ils te programment pas comme ça sans regarder ce que tu fais, sans t'écouter, sans
évidemment
aller voir sur YouTube. Tu vois, ils sont quand même, c'est. Et non, Delgrès n'a jamais joué là-bas et personne, il n'y a aucun groupe, je me suis dit, qui t'enquête. C'est le premier groupe français qui joue. Alors après, des gens, ils sont allés jammer dans les jams, autant moi que d'autres musiciens, Nico Wayne, tout ça, mais programmé avec le groupe Routier, c'est la première fois.
Donc, alors, il y a quand même eu Lil Red and the Rooster, mais on va dire que Lil Red, Jennifer étant américaine, ça compte pas. C'est pas un groupe 100% français.
Ah non, voilà. ça compte pas. Nous, on a tous ce passeport bleu, blanc, rouge. Non, mais peu importe, il n'y a pas de compétition, je veux dire.
Ben non, bien sûr.
Peut-être que je me plante, mais je crois pas, parce que c'est le programmateur, j'ai demandé. Et il est programmateur là-bas depuis 9 ans. Donc, en tout cas, les 9 dernières années, il n'y en a pas eu.
Voilà, quoi qu'il en soit, Phil, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez ouvert une porte. Et à mon avis, il y a du monde derrière, côté Chicago, pour peut-être aller voir ce qui se passe du côté de l'Europe en matière de blues. Et derrière toi, il y a toute une armée d'autres musiciens qui vont forcément les frapper à la même porte. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'espère qu'ils ont une bonne épaule, des bons trousseaux de clés pour l'enfoncer la porte. Parce que, ouais, c'est possible. Moi, de toute façon, je n'ai jamais été un mec qui tirait la couverture quand je peux... Souvent, quand je joue dans des endroits, les mecs me demandent conseil, je les oriente vers d'autres groupes, parce que je vois pas l'intérêt de toujours essayer de vouloir jouer dans les mêmes endroits, puisque de toute façon, c'est bien pour l'endroit qu'il y ait de nouvelles têtes. Et...
Voilà.
Voilà, non, mais moi, je pense que ça peut nous ouvrir surtout des portes à Big Dead pour peut-être un jour être programmé dans certains festivals là-bas, et pourquoi pas le Chicago Blues Festival. Il faut y aller crescendo, quoi, tu vois. On a réussi ça. Si ça se passe très bien, et je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, Chicago Blues Festival, enfin, tu sais jamais. Quoi.
Voilà, ça c'est effectivement pour les rêves et puis pour l'avenir. Exactement, le Graal, parce que faire partie, être sur la programmation officielle du Chicago Blues Festival
en juin,
Chicago. Mais bon, sait-on jamais. Il y a également des dates au Texas qui sont programmées. Tu parlais de voyages sur Austin notamment. Tu vas retourner à Austin et à Dallas.
Dallas en premier, alors là aussi des clubs qui ne sont pas non plus n'importe quoi, comme le Louis, qui est dans le centre de Dallas, là, dans Deep Ellum, dans le quartier chaud où il y a tous les clubs, c'est un super club.
Ouais.
Là, il nous prend un dimanche soir, pareil avec le nom Big Dead. La Taverne, là, c'est un autre club où il y a du blues tous les jeudis. Je l'ai fait la dernière fois, qui est génial, très Texas. Les gens sont hyper sympas. La grosse culture Winter a joué là-bas, SRV, tout ça. C'est vraiment tillet, t'es en plein dedans. Et après, on va à Austin, et là, on joue dans un club légendaire qui s'appelle le Continental Club à Austin, qui date depuis les années 70, où les T-Birds ont commencé, tout ça.
Ah oui.
Donc voilà, super, moi je suis content. Et puis là, on reprend la route, on revient à Chicago, on reste 3 jours et on rentre à Paris.
Très bien, donc il y a toute une série de dates, il y en a encore qui restent à confirmer. Je crois qu'il y a, des dates ouais. to be announced sur Dallas notamment. En tout cas, vous ne partez pas pour rien parce qu'entre le 27 octobre et le 6 novembre, voilà, il n'y aura peut-être pas beaucoup de journées off. En tout cas, on te le souhaite.
Non, il n'y en a pas, normalement il n'y en a pas. Et puis même s'il y en a, on va peut-être passer du temps à enregistrer, on va peut-être aller en studio. Enfin, ça c'est des surprises, on verra.
Ah, sur Memphis par exemple, non ou,
Non, ou même, non, sur Chicago ou sur Chicago. Dallas ou sur Austin, je ne sais pas, on verra. Mais tout est possible. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on puisse revoyager, rejouer, que pour l'instant, il n'y a pas cette pandémie, elle commence à être un peu derrière nous. Et ça, on commence à souffler, quoi.
Effectivement, c'est ça la bonne nouvelle qu'il faut retenir. Donc, on va rappeler Big Days USA Tour 2022 à partir du 27 octobre au Buddy Guy's Legend, le 28 au House of Blues, le 29 au Rosa's Lounge, et puis début novembre avec une connexion de musiciens américains et français, dont Gilles Gabisson, l'harmoniciste, également Bobby Chitwood et Mike Arnold, sur Dallas et sur Austin. Voilà, vous allez sur les sites des clubs que vous a cité Phil tout à l'heure pour aller peut-être l'applaudir là-bas. Et aussi les auditeurs de Chicago de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui t'écoutent là-bas.
Plaisir.
Et puis
avec
Liz aussi. Liz, if you're doing well, I kiss you from Normandy, France. Voilà. Liz, on l'adore aussi dans Sweet Home Chicago. On avait fait une interview ensemble il y a quelques temps à l'occasion de la sortie de son avant-dernier album. On est en direct d'Amsterdam avec Phil Fernandez, Big Days. Et puis, on est sur quoi ? Sur un canal ? On est en train de passer un pont ? Qu'est-ce qui se passe ?
Raconte-nous. En plein dedans, là, je suis sur un canal, sur un bateau, un petit bateau, en train de me balader avec mon fils. Peinard, il fait beau et j'attendais ton coup de fil. Mais je me suis dit, bah, c'est original, je vais le faire.
C'est super.
Je sais pas pourquoi je vais m'arrêter, je vais le faire en même temps que je suis sur l'eau. Autant être naturel, quoi.
Eh ben voilà, autant allier le plaisir et le plaisir.
Exactement.
Merci pour tout ça. Que faut-il faire pour suivre tes aventures ? J'imagine aller sur le bigdays.com, tout simplement.
Voilà, ou Facebook.
Les réseaux sociaux.
Instagram, c'est surtout ça, les réseaux sociaux. Et puis, même si les gens veulent plus d'infos, ils nous envoient un message privé et on répond tout de suite, il n'y a pas de souci.
Très bien. Mais écoute, on attend des vidéos de ces fameux concerts, parce que, rappelons-le, ce ne sont pas du tout des concerts privés, ce sont des concerts ouverts au grand public et c'est sur la page officielle des différents clubs. Et puis, on rappelle également l'existence de cet album qui s'appelle toujours Chicken in the Car and the Car Can't Go par Big Days. À très bientôt.
À très bientôt. Merci, Marc.
Au revoir.
Au revoir. Salut.
1, 2. You know what to do. I know I can't lose.
C'était Big Days avec sa tournée US, Chicago, Dallas et Austin. On continue, nous, avec les Beatles. Voici Jackie Emery pour le numéro 14 de Beatles Song Story. Bonjour Jackie, comment ça va ?
Eh bien écoute, ça va, je vais très bien.
Beatles Song Story, là je pense que ça va être un petit peu particulier. C'est un morceau qui te tient à cœur comme beaucoup. Dans un album qui lui est absolument mythique, légendaire parmi ceux des Beatles, Peppers.
Exactement, c'est Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Et ce morceau-là en particulier. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un deuxième Beatles Song Story, toujours pour le même morceau. Alors, il y a plein de choses à dire. A Day in the Life des Beatles.
Oui, exact, Marco. En fait, il y avait énormément de choses à dire sur cette chanson. En plus, c'est assez cohérent de faire deux émissions, puisque, en fait, Day in the Life est la juxtaposition de deux chansons.
Ouais.
Donc, on est cohérent. Voilà, comme d'habitude. Donc, on a ces deux chansons et il faut donc les raccrocher ensemble. On ne sait pas tout à fait l'histoire. Moi, je n'ai pas réussi à décortiquer qui vraiment a eu l'idée au départ de cette... McCartney a appelé comme un orgasme musical. Ces 24 mesures, ces fameuses 24 mesures qui lient le morceau de McCartney à celui de Lennon, où ils vont avoir l'idée de partir. Alors, Lennon avait une phrase sur le sujet. Il disait « On part de rien pour arriver à la fin du monde ». C'était son truc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des musiciens. Et là, il pense à convoquer un orchestre symphonique.
D'accord.
Là, George Martin dit, hop, je suis le producteur. L'orchestre symphonique, 90 musiciens, ça va nous coûter une blinde. Et Ringo Starr, qui a toujours le mot pour rire, dit, bon, on n'a qu'à en prendre que la moitié et les faire jouer deux fois. Et en fait, bon, il prendra quand même que la moitié. D'ailleurs, ouais. C'est pour ça qu'il va convoquer 45 musiciens.
D'accord.
Donc, on a des cuivres... toutes les sections de cuivre, les violons, les cordes, etc., etc. Donc on va les puiser dans le Philharmonique de Londres et d'autres orchestres, hein, je crois. Il n'y a pas que le Philharmonique de Londres. Mais ces gens-là ne sont pas franchement habitués à jouer n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'on va leur demander. Hein.
C'est-à-dire quand tu dis n'importe quoi, ça veut dire que la musique n'était pas forcément écrite à la note près ?
Tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée, c'était de partir de la note la plus basse, hein, pour aller vers la plus haute. Et chaque musicien, et ils étaient nombreux, pouvait faire ce qu'il voulait. Hein, sans s'occuper, comme l'a dit McCartney, sans se préoccuper de ce que faisait le voisin d'à côté.
D'accord.
Alors, pour un musicien classique, je vais autant dire que là, tu lui mets la barre très haute quand
même. C'est vrai.
Voilà. Et d'ailleurs, pour ce faire, les Beatles vont avoir une petite idée. Ils vont essayer de détendre de l'atmosphère, c'est-à-dire que quand les musiciens classiques vont arriver dans le studio, ils vont se voir distribuer des faux nez, des faux seins, des fausses moustaches, des déguisements, enfin, etc., pour détendre un peu le truc. Et d'ailleurs, ça, tout ça a été photographié, voire même filmé. On voit qu'effectivement, il y aura une ambiance assez surréaliste dans le studio, hein, c'est clair. Et donc, Nubla parti pour les Beatles sont partis pour enregistrer donc ces fameuses 24 mesures. Donc, c'est Miles Evans qui va les compter. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrivera plus à enlever de la piste, effacer de la piste les comptages d'Evans. Donc, on les entend 1, 2, etc. Et à la fin des 24 mesures, pour remettre tout le monde dans le bon sens, ils ont mis un réveil à sonner. Et celui-là aussi, ils ne pourront pas l'enlever. Ce qui fait que tu l'entends toujours. C'est-à-dire que quand tu as la fin de cette montée assez incroyable, tu entends ce réveil qui sonne. Et c'est là que j'en reviens à tout à l'heure, à mon histoire de McCartney et sa chanson, qui dit, à ce moment-là, quand le réveil sonne. Et c'était un hasard, c'était pas voulu.
Ah oui, d'accord.
Ouais, voilà, exactement. L'orchestre donc est enregistré plusieurs fois, sur plusieurs pistes. Et en fait, George Martin l'écrit dans un bouquin de mémoire, où il dit que dès que ça a commencé, ce qui aurait pu être une cacophonie en vérité, hein, que les musiciens ont commencé à jouer avec cette progression, tout de suite, il dit, le poil s'est dressé sur les bras. Ça sentait quelque chose de génial. Et en fait, effectivement, le résultat est absolument époustouflant. Hein. Quand tu écoutes cette montée qui relie les deux morceaux, ces 24 mesures, ça monte, ça monte, ça monte. Et tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et si tu es vraiment en osmose avec cette musique, il y a même un moment où tu pourrais penser que ça te coupe le souffle, tu vois.
Ouais.
Ça ne va pas arrêter, quoi. Et ça s'arrête. Le réveil sonne et paf, McCartney attaque sa chanson. Voilà. Et ça a donné vraiment un...
Ça, c'est un exercice unique dans l'histoire des Beatles et peut-être même aussi dans l'histoire de la pop musique ou du rock.
Bah, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte à l'époque quand même où... J'adore les Beatles, mais il y avait du travail de fait avec d'autres groupes. Hein. On voit les Beach Boys, Brian Wilson travailler quand même sur des concepts musicaux comme ça un peu décalés. Puis c'est l'arrivée de nouvelles musiques. On est passé à Bob Dylan, on est passé... Il y a l'arrivée de Phil Spector. Hein. Moi, je n'ai pas toujours beaucoup d'appétence pour Phil Spector, mais n'empêche qu'il a amené des choses nouvelles aussi dans la production.
On peut parler de Frank Zappa aussi. Enfin,
ça, oui, voilà,
on est quelques années plus tard, vers 68, Mother of Invention, c'était vraiment le nom de son groupe. Ils ont même parodié, je crois, la pochette de Sgt. Pepper.
Et donc, ils ont, je pense qu'avec ce genre de musique, ce genre d'expérience musicale, ça nous amène tout droit vers des groupes du style les Pink Floyd, par exemple. Ben
voilà,
Je me rappelle d'un groupe Emerson, Lake & Palmer, je ne sais pas si tu te souviens.
Bien sûr.
Voilà, donc où là, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'on pouvait conceptualiser certaines formes de musique.
Oui, on peut aller très très loin. Bah, Chicago Transit Authority, voilà, il y a d'autres noms comme ça.
Oui, même Genesis. Hein. Ça a été, il y a eu une explosion. En fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ce qui était certainement très gênant pour certains groupes à cette époque-là, c'est que les moyens de reproduction sur scène étaient plutôt limités. Oui. Et clairement, les Beatles savaient très bien qu'ils pouvaient faire ça parce qu'ils avaient arrêté les concerts.
Justement, voilà, c'était un contexte.
Il y avait des choses qui n'étaient pas jouables en concert.
Ouais. Tout à fait. Voilà, ce titre qui fait partie de l'album mythique des Beatles. Il n'y a pas tellement d'albums non mythiques des Beatles, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas un album tournant, ce n'est pas un album d'exception, mais peut-être tous le sont. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band avec A Day in the Life.
Oui, mais en fait, il faut dire que, tu le sais, on en a parlé des fois, tu sais, du classement notamment de Rolling Stone, sur le magazine Rolling Stone, sur les plus grands morceaux des albums de tous les temps. Alors, en fonction des années, ça fluctue un petit peu, mais Sgt. Pepper est resté extrêmement longtemps premier album. Et de toute façon, moi, quand je discute avec des musiciens qui soient d'obédience jazz, classique, rock, il y a quand même un consensus sur le sujet. Voilà, c'est l'album qui est arrivé au bon moment. Tu sais, il y a une anecdote. Moi, j'ai entendu une fois une interview de McCartney. À l'époque, tu sais, quand ils ont commencé à enregistrer, Penny Lane et Strawberry Fields Forever. Comme les Beatles ne sortaient rien et qu'on avait l'habitude de les voir sortir quasiment presque deux albums par an, leur producteur leur a demandé de sortir quelque chose pour au moins sortir un single.
Oui, parce qu'il y avait la pression des journalistes aussi qui pensaient qu'ils étaient en panne sèche, d'inspiration.
Donc, ils ont mis Strawberry Fields et puis Penny Lane sur un single qu'ils ont sorti. Et donc, ils ne l'ont pas mis sur Sgt. Pepper parce qu'à l'époque, on avait un peu l'impression que si on vendait l'album en single d'abord et l'album après, on vendait deux fois le même produit et que c'était un peu volé les gens. C'est dommage.
Il y a tellement de gens qui ont fait ça.
Oui. Mais ouais.
Il y a même des gens qui s'invitaient les uns les autres et qui ont le morceau sur l'album de l'un et l'album de l'autre après. Quoi.
Tout à fait. C'est comme ça. Ouais. Et puis, donc, il y avait des journalistes qui commençaient à dire, ça fait quand même plus de 100 jours que les Beatles sont en studio et on voit rien sortir. Et un journaliste avait écrit, les Beatles sont devenus secs.
Ouais.
Voilà. Et McCartney raconte l'anecdote, il dit, quand j'ai lu ça, on venait de finir Sgt. Pepper, je me suis dit, vous allez voir ce que vous allez voir.
Effectivement, voilà. Ils n'étaient pas à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Jackie, tu nous proposes une cover, c'est ça ?
Alors avant de parler de la cover, je voudrais finir sur Day in a Life. Je t'avais dit que ça serait très long. Hein, et j'ai, en moi, j'ai synthétisé.
Hein. Oui, non, mais il y a pas
j'ai
ceci.
Synthétisé. Et il y a encore autre chose. Parlons de la fin de Day in a Life avec cet accord de mi plaqué au piano qui à lui-même est... pour moi, représente tout ce qu'est la pop culture.
Et qui dure, qui dure.
Qui dure, qui dure. Qui dure. Et, bah, de toute façon, il est jusqu'à qu'on ne l'entende plus. Hein. Ouais. Pour ce faire, les Beatles, tout le monde s'y est mis, George Martin, Ringo Starr, enfin tous ceux qui étaient là présents, ont plaqué un accord sur tout un tas de pianos différents. Même George Martin a rajouté de l'harmonium à la fin. Et l'ingénieur du son a poussé le truc pour que ça puisse traîner le plus longtemps possible. D'accord. Le niveau pour que ça puisse traîner le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, quand tu l'écoutes, il faut vraiment être recueilli. Alors, il y a des fois, on peut écouter un peu comme ça sans trop faire attention.
Oui, ou en discutant avec des gens.
Voilà. Ouais. Mais si un jour, tu es chez toi, et si tes auditeurs sont chez eux et qu'ils écoutent ce morceau...
Au casque ?
Au casque, c'est encore mieux. Et ils écoutent et ils laissent mourir cet accord jusqu'à la fin. D'ailleurs, après, il y a un petit blanc et il y a... ce qu'on pourrait après un des premiers morceaux cachés de l'histoire, un petit truc que les Beatles se sont fait plaisir totalement fou. Mais en tout cas, l'accord traîne long. Et une dernière chose concernant Day in the Life, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, parce que lui, c'est un petit génie dans son genre, c'est Ringo Starr qui va mettre une partie de batterie là-dessus, plus que génial, pour se faire, pour donner, quand on l'entend, ses sons très sourds, il va détendre ses peaux au maximum. Et il joue pas sur la caisse claire, hein, il joue que sur les tomes, et ça donne un effet génial. Voilà, ces types-là étaient géniaux, je n'hésite pas à le dire.
Une reprise choisie, j'imagine. Jackie, tu as dû en écouter quelques-unes des covers de A Day in the Life. Tu as quand même réussi à nous déterrer un truc de Jeff Beck.
Oui, alors en fait, j'ai choisi Jeff Beck, d'abord parce que j'aime beaucoup Jeff Beck. Hein. Et puis, voilà, c'est quitte à faire un cover de Day in the Life. Parce que franchement, remplacer la voix de Lennon et sa guitare, le morceau de McCartney, cette petite, ces 24 mesures incroyables jouées par 45 musiciens, franchement, c'était difficile. Alors j'ai pris carrément quelque chose de décalé.
Ouais.
C'est mon petit Jeff Beck avec son groupe, sa bassiste et son batteur qui te le fait à la guitare. Et à mon avis, c'est quand même un super bel hommage aux Beatles que Jeff Beck nous fait.
Ça a été enregistré quand, cette version live de Jeff Beck ?
En 2003.
2003, ah oui, ah ouais. Ça remonte déjà quelques années.
J'ai vérifié mes sources.
Ouais, très bien. On écoute ça. We'll be right back. A Day in the Life par les Beatles, ici interprété par Jeff Beck. Voilà, c'était l'objet de ce 14e déjà Beatles Song Story, 13e et 14e liés, un petit peu comme les deux morceaux qui fabriquent ce titre, justement, Jackie. As-tu déjà réfléchi au 15e numéro de Beatles Song Story, Jackie?
Eh bien, pour une fois, non, je suis un peu hésitant.
Alors, est-ce que tu as besoin d'aide pour te pousser vers un morceau particulier?
Quand tu viens de faire Day in the Life, tu te dis, bon, bah c'est bon, je suis...
c'est le chien devant
toi. Je suis arrivé au bout. Non, je pense que je vais repartir à la genèse.
Sur des vieux trucs. 62, 63.
J'aimerais bien qu'on reparle un peu de l'époque de Hambourg.
Ah oui.
Parce que, alors, quand on parle des Beatles, il y a plusieurs choses qui marquent pourquoi ce groupe a réussi. Moi, j'ai trois éléments. Un, on ne peut pas comprendre les Beatles si on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu à Hambourg. Deux, je pense que le fait majeur, marquant des Beatles, c'est d'avoir arrêté la scène. Ça, c'est ce qui... Ouais. Et trois, alors ça, j'ai un petit truc que j'ai piqué dans le premier épisode d'Amicalement Vôtre. Je pense que c'est Lennon et McCartney. Prenez de produits relativement peu dangereux, hein, comme le nitrate, hein, et la glycérine. Voilà. Mettez-les ensemble et boum.
Voilà. Nitro et glycérine. Merci Jackie, à très bientôt pour Beatles Song Story. La saga continue sur le 666.
À bientôt Marco.
À bientôt. C'est Beatles Song Story numéro 14 avec Jackie Emery qui ne nous présentait pas un morceau par les Beatles, mais ici des Beatles, donc A Day in the Life. Vous avez compris que c'était dans le numéro 13 que vous pouviez retrouver la première partie de cette rubrique. Et là, on vient d'entendre la version live de 2003 de monsieur Jeff Beck. Voici maintenant quelques Frenchies, Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panucco avec Données sans compter, extrait de Miettes d'éternité.
Certainement pu mieux faire, j'aurais certainement pu mieux dire. Les belles intentions peuvent l'enfer, personne ne veut faire souffrir, on t'a juste évité le pire. La moitié du chemin passé, qui ose dire ne rien regretter. Il est celui qu'il voulait être, sans un bémol, sans un peut-être, et qu'il n'a rien fait qu'avancer. Mais je revois les yeux de mon père et les bras tendus de ma mère, tout au bout de la cour de récré. Je revois les saisons légères, ces heures de grâce éphémères, finies à peine commencées. Ont donné. Je sais ce qu'ils y ont laissé. J'ai suivi la trace de leurs rêves qui ne seront pas réalisés. J'espère savoir le consoler. Mais parfois, comme ce soir, j'enrage face au destin, à ses outrages, à mon impuissance à voler. À la vie au creux des nuages, ce qu'il faut de force, de courage, pour prendre ce qui leur revenait. On n'est pas loin du bout de la route, de notre chemin commun sans doute. J'espère qu'ils sauront emporter vers ce rendez-vous programmé, cet amour donné sans compter. J'aurais certainement pu mieux faire, j'aurais certainement pu mieux dire.
Superbe chanson, magnifique chanson de Jean-Christophe Panico ici, accompagné par Laurent Choubrac. C'est toujours l'un ou l'autre qui accompagne le compère. Miettes d'éternité, je vous rappelle la présence de ces deux garçons le 12 novembre prochain dans les studios du Triple 6 et le 26 novembre sur la scène du Portobello à Caen. Dépêchez-vous de réserver vos places. On poursuit avec Cyril Magui, enregistré lors du dernier Cognac Blues Passion, c'était en juillet.
At the tail end, come take my hand. Jump and let's go down. Jump and let's go down. Please with this train. Hope for your pain. Jump and let's go down. Jump and let's go down. You have an ace and break the race. Jump and let's go down. Jump and let's go down.
Un plaisir de retrouver Cyril Magui, leader de Vicious Steel sur le Cognac Blues Passion 2022. S'était retrouvé dans Sweet Home Chicago il y a quelques mois, c'était le 16 avril dernier, pour évoquer la sortie de ton super album Fuel Band. Depuis sa sortie, j'aimerais savoir quel a été l'accueil réservé à ce disque, s'est passé des choses.
Eh bien, on a plutôt un bon accueil. Alors, au niveau des ventes, ça je peux pas trop dire parce que même si l'album est distribué partout en France, c'est très compliqué encore de savoir. En tout cas, sur scène, il est vraiment bien accueilli et on l'a encore vu ce soir à Cognac.
Avec des ventes, ce soir encore un bon accueil du public. On va parler un petit peu du prix Cognac Blues Passion, parce que de la part de Michel Roland, c'était quand même un truc super cool de vous avoir accordé ce prix, c'est fort mérité, je pense. La part de Michel et toute l'équipe du festival, il place ton nom maintenant dans une liste impressionnante où il y a des gens qui figurent comme Thierry Bell, Montelmen, Awek, Rosdell, Gaël Busbel, Manu Lanvin, Achatelier, Botelmi, je n'ai pas fait toute la liste, mais ceux-là sont déjà énormes. Quel a été ton sentiment, Cyril, quand Michel t'a annoncé ça?
Déjà, j'étais super content, vraiment. Il y a un côté de la fière, hein, parce que c'est justement pour être nommé tous ces gens-là, et les gens viennent beaucoup. Et ouais, c'est une reconnaissance quand même, et un beaucoup de projecteurs. Quoi. Donc, moi, je suis de Toircey, donc du nord de Deux-Sèvres, Cognac, c'est vraiment le festival. On voulait vraiment bien jouer, donc déjà, on avait eu la chance de venir il y a 3 ans. Et là, voilà, quand il m'a appelé, il m'a dit, voilà, c'est total plus Cognac. Et waouh, franchement, merci. Quoi. Ouais, je pense qu'il est sensible aussi au travail qu'on fait sur le local, avec les jeunes publics, tout ça. Donc, je pense qu'il y a ce truc dans ses valeurs. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il a dit d'autres choses hier, mais je préfère que celui qui dit
ça. Marche, d'ailleurs, on va se retrouver très bientôt. On va en parler, évidemment. On vient d'évoquer quelques noms voilà, du paysage blues français. Et ce que j'aimerais savoir, Cyril, c'est par quels autres noms d'artistes et de groupes tu compléterais ton petit panthéon à toi, les artistes hexagonaux, ceux qui comptent pour toi, ceux que tu écoutes. Soit qui sont des amis de date, ou alors tu voudrais que le public découvre des gens, soit des gens assis, ou soit des gens qui émergent.
Alors, en artiste français, du coup, je vais parler des copains, de Celtic Social Club.
Par exemple,
d'accord. Le bassiste, Richard et Mathieu. Je peux parler, par exemple, d'un super trompettiste, Paul, qui joue dans la bulle, crack, qui était la bulle crack, ou un groupe qui s'appelle Napositive.
Tu veux parler d'Ibrahim Malouf, tu es d'accord?
Ouais, il pourrait jouer presque aussi. Il est super. Après, dans les grands noms, français, la Maison Tellier, moi je suis sur fan, on avait peut-être parlé déjà, la Maison Tellier. En chanson française, du coup, j'arrive à vraiment m'ouvrir. Ouais. Peu importe le style, c'est pas forcément blues. Les artistes comme Gaël, je sais que je ne vais pas forcément aller écouter où je connais son œuvre, mais ce que j'aime, c'est sur la scène, ça assure.
Mm-hmm.
C'est vraiment chouette. Donc en blues, je pourrais nommer Gaël, Mr. Matt aussi. Je ne parle même pas de The Voice, je parle d'avant. Il a une voix de dingue. en français, bah, M, hein, toujours, voilà,
ah, par exemple. Ah, toujours M,
je trouve ça cool. Alors, là, il s'est fait plaisir avec la bassiste.
Ok, bon, j'ai regardé ta liste de dates, de concert, c'est assez impressionnant. Te voir monter sur scène du jour au lendemain, ça montre que ça peut changer à tout moment, je veux dire, au niveau des configs, en solo, en duo, en formation plus étoffée, avec ou sans cuivre. Donc en fait, tu t'adaptes à toutes les jauges et à tous les lieux. Est-ce que c'est un atout obligé en 2022, ça, pour pouvoir multiplier les dates comme tu le fais?
Alors moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Ouais. Et je me suis rendu compte que depuis le confinement, en fait, c'est un atout. Mais je pense que nous, on est vraiment préparés, on le sait, donc on le fait naturellement. Par exemple, demain, on va jouer Rock the Cavern, ce qu'on a joué d'ailleurs à Cognac pour les enfants. Et on va jouer à côté de chez nous, dans une petite asso, un CSC. Et on sait que ça va être bien. Donc on passe d'un gros festival comme Cognac avec un arcade artiste qu'on est même trop chouchouté. Et là, demain, on va rencontrer des gens de chez nous et on va faire un super concert. C'est ça que j'aime, en fait. C'est ce grand écart, des fois, faire des trucs, on va dire, un peu plus... je sais pas comment... Ça va être...
Plus adulte, peut-être,
ou... de paillettes, des fois. Non,
ah, oui, d'accord.
Ça, en fait. Oui. Et moi, j'ai toujours fait ça. Je me souviens qu'à l'époque, je jouais avec une chanteuse, on avait joué à l'Olympia. Le lendemain, je jouais dans le Marais Poitevin, en One Man. Alors là, bam, ça te remet les pieds sur terre.
De Paris à Coulon, il y a...
Ouais, c'est ça.
Effectivement, alors tu parles de ce que tu fais pour le jeune public, Rock de Caverne, puis le spectacle. Il y a eu un spectacle ce matin, c'est demain matin.
C'était hier matin, Rock de Caverne. Voilà.
Comment est-ce que ça a été reçu par les écoliers? Il y avait encore des écoliers cette semaine.
Michel avait bien joué le coup. On avait, je sais pas, peut-être 300 enfants. C'était top. Oui, c'était d'abord hyper rock'n'roll. Ça a dansé, tout le monde était content. C'était tôt, 9h30.
Bien. Donc pour ce soir, un spectacle qui fonctionne, ce genre de spectacle-là, c'est un spectacle où les spectateurs sont aussi acteurs.
Oui, c'est surtout un spectacle quand tu fais du jeune public, tu joues comme quand tu fais du public. Ouais. Tu fais les mêmes solos de guitare, tu mets la même énergie, les mêmes instruments. Il ne faut pas se poser la question, les enfants, ce ne sont pas des imbéciles.
C'est exactement en train d'introduire la question d'après, justement. Tu voulais savoir si pour toi, l'énergie que tu déploies dans tes concerts, est-ce qu'elle est intégralement restituée par le public? Le jeune public, est-ce qu'il est plus difficile que le public adulte dans la mesure où les émotions des enfants ne sont pas feintes, hein, leurs réactions sont plus spontanées bien sûr, elles sont moins formatées que les nôtres. Alors, est-ce que cette énergie-là, tu la retrouves, elle est restituée?
Ah bah oui, moi j'adore jouer pour les enfants et pour moi c'est le public qui est beaucoup plus facile en fait parce que justement eux ils vont ressentir cette énergie donc ils vont danser tout de suite. Un public plus âgé, il y a toujours la peur de faire devant l'autre. Il y en a certains qui vont se lâcher, qui vont danser, mais il y en a d'autres qui vont rester juste à écouter, à bouger la tête. En même temps, je suis comme ça aussi. Hein. Quand je regarde un concert, je bouge que la tête. Je danse pas, donc je comprends. Mais non, le jeune public, c'est génial et je continuerai à en faire. C'est un des publics les plus gratifiants. Pour un ego de musicien, c'est très bien.
Effectivement. Cyril, il nous reste deux questions. La première, ce serait la première des deux. Imagine, on est en 2023. Admettons, hein, tu vas préparer un prochain album. Et puis ton agent trouve que Jeanne Gallet Lotto, il a un cahier limité pour te faire trois featuring. Quels sont les artistes internationaux ou français d'ailleurs que tu choisirais pour faire figurer sur ce nouveau disque de Vichoutier? Tu peux prendre tout le temps que tu veux.
Ouais. Mais en fait, moi je vais jouer avec les copains en fait. Mais c'est vrai que là, si tu me parles. Non, en fait, j'aimerais pas payer quelqu'un pour faire vienne jouer sur mon disque. J'aimerais que ce soit une rencontre. Et bien, il va plus y en avoir sur mon prochain jeune public.
D'accord.
Ça va être des rencontres. Je pourrais dire, on va faire un truc avec Sébastien Martel, mais c'est une guitariste de l'homme. Enfin, bien sûr, il tourne encore de temps en temps.
Okay.
Pour un trip, une chanson avec Cédric Burnside. Parce qu'on se connaît un petit peu, on a joué.
Un garçon vraiment adorable.
Ouais, c'est chouette. Après. Alors chanteur Sting, truc de dingue. Non, j'adore. Mais j'aime plein de monde. Donc
il te reste, hein.
Et un artiste français. Bah, et en fait, il est non, mais ouais, ça a été armé. Mais, voilà. Il est plus là.
Il était presque français, mais il vient de quitter.
Oui, voilà, pardon.
Exactement.
Quoi. Mais ouais, il y a plein de gens, je pense. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est des rencontres quand même.
Voilà.
Et des fois, tu rencontres des gens, alors que je pense qu'ils ne sont pas accessibles. Des fois, c'est peut-être encore le complexe que je peux avoir. Moi je suis encore le petit campagnard de Saint-Généroux et pour moi je fais de la musique populaire et je ne rêve pas de plus grand. ça vient. Là, ce qu'on fait, c'est génial. Hein. On est hyper bien accueillis et tout, mais je sais d'où je viens et j'ai envie de continuer de rester, de faire ma musique. Juste. Et là, on est sur le collab du Spatio, effectivement. Tu me parlais tout à l'heure de cette rencontre avec, Gérard Lanvin. Quelqu'un qui est connu depuis 30 ans par tous les cinéphiles et qui se lance dans la chanson maintenant, qu'on a pu accueillir il y a pas. Là, tout à l'heure, en début de soirée, quelqu'un de hyper abordable. Ouais. Tu as eu le même sentiment?
Ben oui, je l'ai rencontré sur l'émission de radio de France Bleu. Et quelqu'un d'hyper ouvert, à l'écoute, accueillant. Voilà, donc quelqu'un de normal en fait. Donc c'est super chouette de vous rencontrer. Ouais, moi j'aime beaucoup quand je rencontre des artistes comme ça, que son nature est très simple. Et bah j'ai même pas envie de leur demander plus. Juste de leur dire bonjour, de leur serrer la main, de dire cool, voilà. Il me reste une question, c'est la question un peu rituelle, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les mois à venir? Il y a déjà des projets dans les cartons, malgré le fait que l'album soit tout encore frais repeint.
Ouais, alors des projets j'en ai, alors il me faudrait juste des journées de 70 heures.
Ouais,
voilà.
Pas de problème.
Non mais c'est juste ça, c'est juste le temps qui passe très vite et j'ai envie de profiter de ma famille aussi, donc je freine un peu quand même. Mais ce qu'il faut me souhaiter, c'est une bonne santé et puis de continuer à jouer avec mes copains. Et puis de rencontrer, encore une fois, là, la fête du Cognac, ce que j'aime c'est... On rencontre les copains aussi, des programmateurs, des gens qu'on croise sur les festivals. Marc, c'est pareil, hein, maintenant, ça fait un bout de temps qu'on se croise, mm-hmm. Toujours plaisir. On croise des musiciens, enfin voilà, c'est ça ce que j'aime dans ce métier. J'ai envie que ça continue.
C'est cool. Cyril, merci. Bon vent à Vicious Steel.
Merci à toi.
À très bientôt.
Merci à Cyril Magui. On vient d'entendre La fille du bord du lac, extrait de Fuel Band chez Virgule Prod. Voilà, je vous rappelle que j'avais pu interviewer également Cyril Magui à la sortie de cet album au printemps dernier. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les anciennes émissions sur le Mixcloud. C'est la fin de la première heure de ce 1166e Sweet Home Chicago. On se retrouve juste après avec l'interview de Deeper Dan.